L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Quand on veut prendre une décision importante, on peut toujours faire un tableau à deux colonnes et lister les pour d'un côté et les contre de l'autre. Et comme il y a certains pour un peu plus gros que les autres, ceux-ci pourraient contrebalancer plusieurs contre. Pour donc arriver à contenir ces déséquilibres dans les calculs, on pourrait aller jusqu'à mettre des coefficients à chaque élément porté au tableau. Comme la mise en équation peut en effet aider à raisonner sur ses orientations existentielles, elle pourrait aussi aider à se représenter ses déboires de tous ordres. C'est à la suite d'une déconvenue amoureuse majeure que le mathématicien Laurent de Robert a inventé les mathématiques existentielles, dont il a accepté de chercher les conséquences musicologiques. Dans l'heure qui vient, Métaclassique reçoit Laurent de Robert pour un numéro intitulé « Miraculé ». Robert.
Alors c'est un problème de transgénérationnel et psycho-magique. L'accent il est apparu il y a deux décennies.
Oui.
Non, deux générations, j'exagère. Et en fait c'est pour, je crois, réparer un forfait qui a été produit dans la famille. Mon grand-père s'appelait de Robert, puis hop, soudain il s'appelait des Robert.
C'était donc c'est
Germain
des Robert.
Mais en fait, c'est je crois, hein, je suis tombé dans le coma à un moment. Et j'ai l'impression que dans ce coma, l'épouse de mon grand-oncle m'a révélé que ma grand-mère avait eu mon père avec son oncle. Et donc Germain Dérobé, celui qui doit gérer la main dérobée de sa femme, qui s'appelait Mimi d'ailleurs, Mimi Dérobé, c'est-à-dire moitié Dérobé, moitié, elle était aux deux frères au fond. Et mon père s'appelant Poutou Dérobé, c'est-à-dire celui qui est tout Dérobé, c'est le fils de son père et de son oncle en quelque sorte. Et bien cet accent-là, il est venu à cette génération. Et moi qui m'appelle Laurent Dérobé, je dois rendre le Dérobé, je dois rendre à mon oncle la paternité qui lui a été subtilisée de celle dont il était le seul véritable récipiendaire. Donc je crois que mes enfants s'appelleront De Robert et plus Des Robert, si je répare bien les choses.
Donc on va dire Laurent De Robert ?
Oui, parce que tout ce que je fais au fond, c'est-à-dire de l'algèbre, c'est essayer de réparer le monde. Donc je vais le faire sauter cet accent.
Parce que en musique, ce qu'on appelle le temps dérobé, je crois que ça s'appelle le rubato.
Que j'adore.
Oui. Alors là, on vient d'entendre un extrait d'une suite pour violoncelle de Bach. Et ça me semble être une espèce de représentation sonore possible de la phrase qui sert d'incipit à vos fragments de mathématiques existentielles, à savoir qu'un homme trace une ligne et cette ligne devient labyrinthe.
C'est peut-être la chose la plus importante du livre, après tout.
Oui.
Et je ne sais pas d'où elle vient, en fait, cette phrase. Je croyais que c'était Borges. La personne qui me l'avait soufflé m'avait maintenu que ça venait de ses livres. J'ai vraiment cherché de partout, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, finalement, c'est une création sans le savoir.
Ça commence par des dédales. Alors, on va devoir prendre le temps de détailler ce dédale, qui est la somme pondérée des distances entre les êtres réels vécus et rêvés qui forment une personne et les mondes réels vécus et rêvés qu'elle habite. Donc on ne pourra pas comprendre ce qu'est un dédale sans commencer par parler de ces distances, de ces écarts entre le réel et le rêve qui clivent chacun des êtres.
Et qui les conduisent à une certaine tristesse, amertume. Je pense qu'on en fait tous l'expérience, ça, de cette déception que le rêve n'épouse pas la réalité.
Oui, qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait être.
Voilà, et que le monde d'ailleurs n'est pas celui que l'on souhaite.
Non plus.
Et au fond, on éprouve assez vite que pour résoudre cette distance entre le rêve et la réalité, il n'y a finalement pas beaucoup d'options. Soit on essaie de faire en sorte que le rêve s'aplatisse par rapport au réel, au fond c'est le plus commode en général.
Donc ça s'appelle la résignation.
Oui, mais c'est quand même souvent le plus commode de se dire être maître de soi plutôt que du monde, revoir avec intelligence et lucidité de nos aspirations pour que, au fond, la paix se fasse dans notre esprit. Mais il y a une façon plus panache, plus courageuse, plus adolescente d'essayer de transformer le réel pour qu'il épouse notre rêve.
Et ça, c'est Icare.
Alors Icare,
il essaye de se transformer lui-même pour atteindre son rêve, mais du coup, il se détruit surtout.
Il se détruit. Alors c'est vrai que quand on dit réduire la distance entre le rêve et la réalité, il faut toujours faire attention de garder un minimum de distance. D'ailleurs, ça lui a échappé à Icare. Parce qu'elle s'approchait trop près de son rêve, il s'est brûlé les ailes. Je vais un tout petit peu plus loin.
Vous êtes en train de dire qu'il s'est brûlé les ailes parce qu'il n'avait pas conscience de l'asymptote, qu'il aurait dû garder...
Pas conscience d'une distance harmonique, je dirais plus qu'une asymptote. On pourra revenir sur l'asymptote tout à l'heure, mais une distance harmonique, c'est une distance juste, précieuse, précise, qui permet, notamment à l'endroit de ce dont on parle, le rêve et la réalité, de conserver le désir actif, de conserver une part de manque qui nous met en mouvement. Si le rêve épouse la réalité, alors qu'est-ce qu'on désire après ? Donc avoir la finesse d'esprit de se dire « toujours manquer un peu ». J'aime bien cette prière de Michelangelo qui dit « Signore fa che io possa sempre desiderare più di quanto riesco a realizzare » qui signifie « Seigneur, faites-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne puis accomplir ».
Et pourquoi faut demander au Seigneur ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire soi-même, de maintenir cette distance ?
C'est une prière qu'on peut se faire à soi, effectivement.
D'accord. Mais elle a moins de chances d'aboutir si on en prend la
charge. Plus, je pense. Mais je trouve que l'audace de Michelangelo, c'est de dire d'habitude, on fait une prière pour avoir ce que l'on veut, en particulier au Seigneur. Et là, c'est de dire précisément, Seigneur, faites que je n'obtienne pas ce que je veux.
Parce qu'il y a un proverbe qui vient d'Asie qui dit « Méfie-toi de ce que tu veux, tu l'auras ».
C'est très juste, c'est la même, je pense.
C'est un peu la même, mais oui. Mais c'est qu'il y a une espèce de menace. C'est-à-dire
une menace existentielle parce qu'elle coupe l'élan.
Et c'est une bonne tactique pour se tenir à distance de ce qu'on veut comme ça ?
Alors franchement, le réel, en règle générale...
S'en charge très bien.
S'en charge très bien, donc Dieu existe à cet endroit-là.
Alors revenons quand même sur Icare, parce que votre particularité, c'est quand même de saisir aussi des figures de la mythologie et de les mettre en équation. Par exemple, vous faites l'écart d'Icare type, qui est une façon de mettre en relation dans une équation un principe de minimisation du dédale, c'est-à-dire de la réduction de l'écart, qui serait notre tendance naturelle, et une espèce de reste alors qui fait que Icare franchit la distance.
Sincèrement, ça fait très longtemps que je l'ai écrit, j'ai oublié.
Ah d'accord.
L'écart type. Je me rappelle que c'était un... Parce que j'étais prof de stats aussi. Ouais. Et donc l'écart type, c'est un concept de mathématiques appliquées qui est important. Et c'est vrai que j'avais joué un tout petit peu de cette assonance entre l'écart type et l'écart type.
Oui.
Mais alors, je me rappelle plus. Si je relis un peu, je vous dirai ce que j'ai essayé de dire.
Ou alors on passe à Tantale. Parce que pourquoi Tantale assure une distance ?
Alors, parce que dans l'histoire de Tantale, donc, c'est cette présence dans ce qui ressemble au paradis, mais qui devient très vite l'enfer. D'ailleurs, c'est peut-être une très bonne définition, j'y reviendrai, de l'enfer, que cette proximité du paradis qu'on ne peut pas ravir. C'est drôle parce que le souffle s'est arrêté à ce moment-là. Je ne sais pas si on entend l'enregistrement, mais le souffle de l'ordinateur s'est arrêté à ce moment-là.
Au moment de
cette différence entre l'enfer et le paradis,
ah oui.
Qui était celui de ces fruits qui nous sont promis mais qu'on ne peut pas cueillir.
Ah oui.
C'est ça que fait Tantale, il est là sous un arbre qui lui promet tant de fruits face à un ruisseau, alors qu'il est assoiffé, qui lui promet tant de saveurs. Et en fait, dès lors qu'il élance la main pour attraper les fruits ou pour cueillir un peu d'eau, eh bien le ruisseau s'en va ou le vent souffle dans les branches de sorte qu'il ne peut pas cueillir les fruits. Et ça, en fait, à mon avis, c'est important. C'est le sommet du supplice, en quelque sorte, d'être si près de son idéal, de ce que l'on souhaite et de ne pas pouvoir l'embrasser. Et c'est donc une présence comme l'enfer, comme l'asymptote du paradis.
Alors précisément, c'est là que l'asymptote n'est jamais harmonique ou ne l'est que très ponctuellement à un moment de sa courbe.
Alors, il y a une nouvelle définition de l'asymptote. J'ai écrit un nouveau livre depuis celui-là qui parle précisément de cette parole. Si j'ai une minute pour le développer, parce que je pense que c'est précieux.
Même en tout cas, si vous voulez.
Ouais, je pense. Parce que c'est quelque chose qui, à mes yeux, a été décisif dans notre rapport au monde et en particulier à la sensualité. Donc Jésus, il est théoriquement dans son tombeau. Marie-Madeleine court le dimanche, là, après Pâques, enfin le jour de Pâques, là, et ne le trouve pas dans le tombeau. Donc elle sort, elle voit un jardinier, enfin quelqu'un qu'elle prend pour un jardinier. Elle lui demande si elle n'a pas vu son maître, qui est défunt. Et là, lui, il répond Marie, Marie, en fait, il l'interpelle. Et Marie-Madeleine reconnaît à la voix que c'est en fait Jésus qui était transfiguré. Et là, elle s'élance vers lui et les évangiles disent, et Jésus lui dit, ne me touche pas.
Nolim étant guéri.
Ce que je trouve, mais d'une violence inouïe. Je veux dire, quand on aime passionnément quelqu'un, qui en plus on croyait perdu à jamais, si on a la possibilité de l'embrasser encore une fois, comment on peut refuser à quelqu'un que l'on aime et qui nous aime une dernière embrassade, en tout cas une prochaine embrassade. Et en fait, je me suis rendu compte que cette traduction, vous allez voir pourquoi c'est une asymptote. Une asymptote, c'est ce vers quoi on tend, mais qu'on ne peut pas toucher, théoriquement. Et je me suis rendu compte que cette phrase « Nolim étant guéri, ne me touche pas » en fait était un abus de langage, en tout cas une traduction tronquée du grec, parce que les évangiles sont écrits en grec, qui dit « Memou aptou ». Voilà ce que dit saint Jean dans l'évangile, « Memou aptou », ce qui veut dire effectivement « aptein », toucher, mais surtout veut dire « retenir ». Le premier sens de « aptein », c'est « retenir ». Donc en fait, ce que dit Jésus peut-être à Marie-Madeleine qui s'élance vers lui, c'est de dire « Mais tu peux me toucher, ça c'est ok, mais ne me retenir pas. Ne me retiens pas, mais touche-moi si tu veux. » Et je crois qu'on a été frappé d'une vingtaine de siècles d'interdit du toucher, de réprobation de la sensualité.
Sur une erreur de traduction peut-être.
Ouais. Et si bien que, et c'est curieux aussi que dans les mathématiques modernes, il y a une évolution qui est proche de celle-là, qui n'interdit pas à l'asymptote de toucher son idéal. Dès lors qu'elle ne l'épouse pas. Voilà. Une asymptote, c'est une droite ou une courbe vers laquelle on tend, qu'on peut croiser de temps en temps, mais que l'on n'épouse pas à jamais.
La question est de savoir, peut-être éventuellement en écoutant un extrait du Requiem de Fauré, comment donc se comporter avec l'idée de paradis. Que l'asymptote qui nous tendrait vers un état paradisiaque, elle pourrait le rencontrer, le paradis, à condition de ne pas le retenir, c'est ça aussi. Il faut prendre la leçon de Marie-Madeleine.
Je pense, on revient à cette idée que épouser son idéal, c'est...
C'est le toucher sans le retenir.
Alors, épouser, ça serait retenir, en l'occurrence. Et la toucher, c'est vraiment frôler, caresser, en fait. Je préfère l'idée d'asymptote et de tangente, mais en tout cas d'asymptote comme une caresse, parfois, plutôt que de retenir la chose. Et finalement, quand on essaie de retenir une chose, c'est la meilleure façon qu'elle s'enfuit, souvent. Pour ce qui est du paradis, vous passiez ce requiem, c'est vrai que j'ai toujours été perplexe quand on fait cette formule de rest in peace, de repose en paix, alors que j'ai quand même plutôt envie, moi, de surtout pas me reposer après la mort, ou de rester en quelque sorte, si c'est possible, un peu vivant, tonique et adolescent. Donc je trouve que c'est un contrepoint. En mouvement. Et ce mouvement, en fait, on l'obtient précisément quand il y a une distance, que je disais tout à l'heure, harmonique entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a.
Mais comment on sait qu'elle est harmonique alors? Parce que c'est un mot musical, justement, l'harmonie.
Elle est harmonique parce qu'elle met en mouvement et pas trop dans le tourment non plus. Donc c'est à la fois une question de tonalité et de rythme, je dirais.
Parce que le tourment, il est de l'ordre du désespoir à pas pouvoir toucher à la distance, à être bloqué dans l'écart.
Je dirais plutôt que la douleur, elle est celle-là même de la distance entre ce que l'on souhaite et ce que l'on est.
Donc il n'y a que par le mouvement qu'elle peut se dissiper.
Alors le mouvement fait qu'elle se dissipe, mais il faut garder un tout petit peu cet écart, comme je disais, pour conserver le mouvement.
Et parce que quand on vous dit que le dédale est un indice des tourments, ça veut dire qu'il y a toujours des tourments.
Il peut y avoir, on tend vers le zéro dédale, c'est-à-dire vers une sorte d'ataraxie, d'extinction de ces souffrances. Mais le fait de tendre vers, ça ne veut pas dire qu'on y parvient. Je crois que ce que je raconte avec l'Icare type, c'est précisément ça. C'est que Icare, par maladresse ou infortune, à force de vouloir résoudre la distance entre ce qu'il a et ce qu'il voudrait, eh bien, il explose au contraire la distance entre les deux. Et souvent, par maladresse et infortune, comme je le disais, à essayer de réduire la distance entre ce que l'on a et ce que l'on souhaite, précisément, on l'a fait exploser.
Pour autant qu'on est toujours en mouvement, c'est en fait ce passage d'un mouvement permanent vers la minimisation du dédale et le fait qu'il y a un moment ça puisse péter, qui est un peu stressant dans votre histoire. Parce que...
c'est vrai, ce stress aussi, ça nous est tous arrivé de connaître une personne dans notre entourage qui a la vie rêvée, en tout cas selon ses propres termes, c'est-à-dire peut-être jeune père de famille avec tout ce qu'il réussit, il part acheter un paquet de cigarettes et il revient jamais, précisément peut-être parce qu'il touchait cet idéal-là qu'il n'avait pas su mettre en mouvement son être. Donc c'est vrai que c'est peut-être anxiogène ce que je raconte que de dire, à force d'essayer de résoudre l'écart amer qu'il y a entre notre être réel et notre être rêvé, on peut au contraire l'exploser.
La force d'attraction de l'être rêvé est proportionnelle à son accélération et à l'ascendant de l'idéal. Donc il est proportionnel sur deux facteurs à la fois ?
Oui, comme toutes les forces, en fait, il y a la masse et l'accélération. Et là, ce qui fait office de masse, c'est l'ascendant de l'idéal pour le rêve. Et on prend le mouvement de ces rêves pour indiquer comment ils peuvent nous mettre en mouvement. Alors c'est vrai que là on se résume à être réel et être rêvé, mais il y a aussi l'être vécu, enfin l'être perçu, et qui est notre regard sur nous-mêmes aussi. C'est pas moi tel que je suis objectivement, ou en tout cas tel que je pense qu'un spectateur impartial pourrait me décrire, mais c'est moi tel que je me vis subjectivement. Et on a beaucoup aussi d'exemples dans notre propre vie, de moments où on sait très bien qu'objectivement, pseudo-objectivement, on est tel, mais qu'intérieurement, on se vit à des kilomètres de tel qu'on est perçu.
Donc là, on augmente encore les cas entre l'être vécu et l'être réel.
Et exactement. Et donc, je pense qu'il y a une triangulation. Alors, tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est complexe est inutilisable. Donc, j'essaie de simplifier le modèle, mais c'est vrai que pour être assez fin et juste, je pense qu'il n'y a pas que l'être réel et l'être rêvé. Il y a l'être réel, l'être rêvé et l'être vécu. C'est-à-dire l'être tel que l'on soit, tel que l'on se sent, tel que l'on se vit.
Mais alors, s'il n'y a pas de mouvement, ça va très mal.
Ça peut ne pas être douloureux, mais c'est qu'il n'y a pas une logique du vivant.
Parce que dans le In Paradisium de Forêt, par exemple, on a l'impression d'une musique qui est en mouvement perpétuel, en même temps qu'elle vise quelque chose de l'ordre de la stase, de l'immobilité.
Je me pose la question encore aujourd'hui. Est-ce que je recherche le repos, le calme, la tranquillité, à anesthésier mes sentiments, par exemple ? Ou est-ce que je recherche la vitalité ? Est-ce que je veux être...
Vous n'êtes toujours pas sûr de ça.
Est-ce que je suis adulte ou adolescent ? Adultus, c'est le participe mort, passé, figé de adolescens, qui est un participe actif. Et je me demande, en fait, dans nos propres vies, parfois, on cherche le tumulte, le chaos, pour
se sentir
vivant. Pour ça, c'est
le côté adolescent ?
Oui, je crois. Ouais. Et d'autres moments, on veut juste avoir la paix, en fait.
Ouais.
Et donc, j'arrive pas à trancher dans la sculpture de soi qui est celle de notre existence, si on recherche précisément le zéro dédale, ou au contraire la mobilité des êtres.
C'est quoi la conjecture de Verlaine ?
Je crois que ça a rapport précisément à cette mobilité des êtres. Dans le modèle, en fait, le Vestal, c'est l'indice du dynamisme de l'être. Et si ce Vestal passe au-dessus d'un stade critique de dérèglement de tous les sens, alors l'explosion du dédale est quasi certaine. Verlaine, il était dans une vie paisible et plutôt plan-plan, si je me rappelle bien, avant de rencontrer Rimbaud. Et au fond, ce que racontent ces propriétés, c'est que si on passe en dessous d'un certain stade ou en dessus d'un certain plafond, ce que j'appelle seuil de Verlaine et plafond de Rimbaud, si cette vitalité, elle est en dessous ou en dessus, alors le risque est grand de tout faire valser, en fait, dans notre existence.
Ah oui. Mais que ça valse à cause de ce manque de régulation ou de ce manque de dérégulation.
C'est ça.
Mais on ne peut pas savoir. Si c'est le manque de régulation ou de dérégulation avant que ça valse.
On le sent quand on s'éteint ou quand on est trop agité.
Que ça va trop loin.
Que ça va trop loin et que c'est pas pour rien qu'il part en Afrique vendre des armes, je pense, Rimbaud.
Bah, peut-être que c'est aussi une façon de vouloir se mettre au clair dans l'écart entre son être vécu et son être réel.
C'est vrai.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est une distance qu'on aime bien éprouver et tirer. C'est-à-dire qu'on peut maximiser son dédale en se disant que ça pourra par reflux le minimiser.
C'est vrai que l'exemple du labyrinthe, mais je veux dire architectural, c'est une bonne illustration. C'est que c'est souvent quand on est très près de la sortie, mais géographiquement, qu'on en est le plus loin existentiellement et inversement.
Oui.
Et parfois, on peut se dire, c'est peut-être aujourd'hui en maximisant mon dédale que demain je vais le résoudre. Et donc, ce dédale-là, il faut toujours l'inscrire dans le temps.
Oui.
Et que effectivement, le musicien qui fait ses gammes, il les fait dans les tourments d'aujourd'hui, mais c'est pour exceller demain. Donc, il faut essayer de se dire, tiens, c'est en fait un métadédale que j'essaye de résoudre, qui est la combinaison convexe des dédales du passé, du présent et du futur. Et donc, si j'accrois le dédale d'aujourd'hui, c'est peut-être pour le résoudre le dédale de demain. Et même, parfois, je fais des actions qui vont résoudre les dédales d'hier, parce que la pensée, elle est magique. Et parfois, elle a les clés des portes dérobées de notre histoire.
Donc, ça veut dire qu'on pourrait arriver à vouloir renforcer sa schizophrénie pour la résorber.
Accroître le tourment d'aujourd'hui pour pouvoir
apaiser celui de demain.
Voilà, voir celui d'hier.
Ah oui, on
qui peut... est encore présent dans notre être.
Et qu'on peut apaiser rétrospectivement.
Je fais une petite histoire là-dedans d'un ami qui allait de déconvenu en déconvenu, amoureuse je veux dire,
ouais.
Et qui avait perdu toutes les femmes de sa vie. Je me rappelle le jour où il me dit, mais je les ai toutes invitées à dîner. Bon, pas en même temps, hein, je veux dire, mais le même soir. Et il avait dressé une table, et puis la dernière de sa vie a sonné à la porte. Est entré, il a pu l'installer à table et lui dire à quel point il l'avait aimé et qu'il bénissait son départ comme il avait béni sa venue dans sa propre vie. En fait, il pouvait verbaliser l'affection qu'il avait pu éprouver pour elle, ce qu'il n'avait pas pu faire de son histoire.
Oui.
Et la seconde est venue après, quand la première était partie, etc. Au terme de toute une nuit, en fait, il disait qu'il s'était couché complètement abattu, mais qu'il avait pu enfin résoudre les dédales de son passé. Et qui pouvait repartir presque à neuf. Bon, la vérité, c'est que ça n'a pas tout à fait marché effectivement, mais en tout cas, je comprenais le ressort. Quoi.
Ça donne le sentiment que l'on pourrait peut-être écouter sous la forme d'une étude pour piano mécanique de Konnan Nankaro, qu'on pourrait se simplifier l'existence tout en complexifiant les formes. Comprenez ça très bien, Laurent de Robert, que l'on puisse, en se faisant des plans complètement injouables, finir par se simplifier la vie. Ou par réveiller le désir, peut-être, en tout cas.
Réveiller le désir.
C'est ça que c'est excitant d'écouter ça.
Complètement, et que ça soit injouable.
Fait partie de l'excitation ?
Oui, aussi.
C'est ce que vous appelez la Sisyphe cyclicité ?
Alors, Sisyphe cyclicité, non, c'est retourner plutôt dans les mêmes tourments de façon périodique.
C'est un effet de boucle.
C'est un effet de boucle, mais il faut imaginer Sisyphe heureux, je crois, c'est ça l'histoire.
Ça, c'est ce que dit Albert Camus, on n'est pas obligé de le croire.
Non,
hein,
je ne crois pas. En tout cas, c'est vrai que de reconduire les mêmes tourments, c'est quand même des choses qui sont un peu le fondement de toute la psychanalyse, parce que ça reste quand même une sorte de psychanalyse gratuite, ça, que j'ai faite tout
enfin,
seul.
Enfin, coûteuse en travail, quand même.
Coûteuse en travail, oui. Et en temps, c'est vrai. En amour aussi, parce que ça m'a fait perdre des choses, sans en trouver d'autres, d'ailleurs.
Vous avez perdu beaucoup de...
Non, en vrai, je l'ai écrit parce que j'avais perdu l'amour. Et comme j'étais rendu à un tourment dont je n'avais pas les mots, et que mon langage c'était plutôt celui des mathématiques, j'ai essayé de traduire en équation les tourments de mon petit cœur brisé. Mmh. En me rappelant d'ailleurs que c'était ça l'histoire de l'algèbre. Algèbre en arabe, ça veut dire restaurer ce qui a été fracturé. Et là, mon cœur était fracturé, donc je me suis dit, tiens, je vais faire de l'algèbre et essayer de restaurer mon cœur brisé en faisant des mathématiques, des sentiments. Mais ça n'a rien résolu, et parce que c'est l'ambition de ces mathématiques, c'est elles sont purement expressives et pas explicatives. Elles sont à peine descriptives dans le sens où effectivement, je pense que tous nous sommes sculpteurs de nos propres vies, et que donc quand je parle de minimiser l'écart entre le rêve et la réalité, c'est un modèle de sculpture de soi au fond. Mais une fois qu'on a fait cette hypothèse-là, toutes ces mathématiques-là, elles sont pour traduire en équations, en conjectures, des émotions, des doutes et des espérances.
Et les errances d'une personne et à mettre des noms d'équations, un vocabulaire mathématique à disposition de ces choses si fuyantes que peuvent être nos tourments, nos sentiments, vous en arrivez à même pouvoir, on pourrait presque dire, modéliser ce que serait un miracle.
Oui. Ah ça, vous l'avez vu là? Non,
c'est non, je l'ai entendu dans une conférence que vous avez donnée où vous racontiez l'histoire du roi de Norvège et du roi de Suède qui avait résolu un conflit entre les deux royaumes à coup de dés, c'était autour de l'an 1000.
C'est ça, où plutôt que de se battre pour de vrai, ils avaient quand même un peu cette intelligence-là, eux, ils se sont dit on va s'en remettre au destin et on va prendre deux os façonnés, enfin deux dés qui étaient façonnés en os. Et celui qui fait le meilleur score, alors il gagne le territoire, c'est quand même plus simple.
Et puis ça va vite en plus.
Ça va vite, et puis c'est moins coûteux.
Et ça fait moins de morts.
Voilà. Le premier roi, je crois que c'est celui. J'ai oublié dans quel ordre. On va dire que c'est Suède. Qui vous préférez
ouais, je crois que c'était Suède. Enfin, la fois où vous l'aviez raconté, c'était Suède. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas lui.
Il lance double 6. Donc on va pas faire mieux. Les dés sont pas pipés, hein, je tiens à le dire. Et le roi de Norvège dit mais moi, je peux quand même égaler le score. Il prend les dés, il fait double 6 aussi. Là, il y a un petit émoi et un frisson. Est-ce que du coup, on s'en remet au combat ou on fait un autre tour de dés? On fait un autre tour de dés. Le roi de Suède lance et double 6 encore. Et là, c'est vrai qu'en mathématiques, vous connaissez les probabilités de faire 4 fois double 6 d'affilée. C'est pas possible, en fait. Tout simplement pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est infinitésimal.
Infinitésimal, oui.
Mais le roi Norvège prend les dés. Il invoque vraiment toute la force de ses ancêtres, et jette les dés, et le premier roule, fait 6, et le second se brise en deux, laissant apparaître les deux faces opposées, 6 et 1, ce qui fait 6 plus 6, 12, plus 1, 13, et donc il a triomphé comme cela. Et je dis que ça, c'est une façon de penser les mathématiques du miracle, parce que un miracle, c'est ce qui est impossible et pourtant réel. Mmh. Là, faire 13 avec 2 dés, c'était impossible, et pourtant ça s'est réalisé.
Alors, le miracle, donc, événement impossible et qui pourtant advient, vous le différenciez du mirage qui relève d'événements irréels qui, pour autant, sont possibles.
C'est ça.
Et alors, ça vous permet de mettre les deux en équation, c'est-à-dire vous mettez en rapport le cardinal de M, à savoir le nombre de miracles, et le cardinal de M', à savoir le nombre de mirages, pour en arriver à ce que je crois être une prière. Oui. À savoir, puisse le cardinal de M, des miracles, être supérieur au cardinal de M'. Donc toutes ces équations ne servent qu'à faire des prières.
Des déclarations, des vagabondages poétiques, oui. Aussi. Je pense aussi elles servent à communiquer avec des personnes dont on n'a pas la même langue vernaculaire, je veux dire. Ça m'arrive de pouvoir parler d'émotions assez fines avec des personnes qui ne parlent pas anglais ou français, grâce à ces mathématiques-là, mais qui connaissent le langage des mathématiques. Parce que je ne me moque pas, par ailleurs. Je veux dire, c'est des symboles que j'utilise avec toute la rigueur qui convient. Et donc, un mathématicien comprend, en fait, une fois qu'on s'est mis d'accord à peu près sur les hypothèses, la logique mathématique, du coup, elle est perceptible n'importe quel algébriste, et il comprend un petit peu les enjeux. Mmh. Donc c'est pas qu'une prière, c'est aussi une façon de rentrer en contact avec des esprits.
Chercher un miracle qui ne viendra jamais, ça fait quelle forme de vie ? Parce que vous mettez en équation jusqu'à, par exemple, l'inconstance maximale du dédale des vies tumultueuses. Est-ce à dire qu'il faut désirer avoir une vie tumultueuse ?
Non, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire l'inconstance ? Ça, c'est juste... Ah, ça, c'est tout simplement dire, entre quoi et quoi et qu'on circule le degré d'inconstance du dédale. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont une vie plutôt plate, enfin je veux dire plus ou moins heureuse, mais dont le quantum de félicité est à peu près stable, et d'autres pour qui ça fait le yo-yo. On est plusieurs. Et donc le degré d'inconstance du dédale, c'est celui qui enregistre cette variabilité en fait, du dédale.
Ah oui.
Et donc je l'encadre entre deux valeurs. Celle des gens équanimes, dont le degré d'inconstance sera égal à zéro, et celle des vies tumultueuses absolues.
Alors, puisqu'on cherche les conséquences musicologiques des mathématiques existentielles, reste à savoir comment est-ce qu'on pourrait reconnaître un compositeur à son dédale de vie tumultueuse, ou enfin à son quantum plutôt.
Moi j'aime bien Satie. Ouais. Satie et cette invitation qui fait précisément, notamment j'ai écouté récemment les vexations, j'ai passé la nuit à les entendre, c'est combien, 840 fois, c'est ça?
La nuit n'aurait pas dû vous suffire, ou alors vous avez eu une très longue nuit, vous avez écouté dans une version hyper rapide.
24 heures à peu près, ouais, c'était ça, 25 même. C'était plusieurs personnes qui ont fait ça au Delirium, qui est un club à Avignon, que j'administre parfois. Et c'est un pianiste qui s'appelle Andrea, qui est professeur au Conservatoire d'Avignon, qui avait invité plusieurs de ses étudiants et quelques autres pianistes professionnels depuis le crépuscule jusqu'à... Non, de midi à midi à peu près, à jouer les 840 fois les vexations. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quand même une méditation sur comment on reconduit les tourments, comment on est équanime par rapport à une partition, comment on entre dans les notes, comment on les interprète différemment, comment on interprète différemment le passé, comment on le rejoue, comment en jouant ces notes-là, on pense aussi à toutes les fois qui vont venir. Donc c'était vraiment comme ce dédale du passé, du présent, de l'avenir. Et je pense que j'ai découvert que Satie répondait à une correspondance dont il ne lui disait pas le fond. Ça m'a fasciné, ça. Qu'à sa mort, on a découvert dans son atelier les lettres auxquelles il avait répondu et dont il n'avait pas ouvert l'enveloppe.
Oui.
Quel don de divination, ou alors
ou quelle conscience de l'équiprobabilité ses réponses entre la prise de conscience de la question qui lui était posée ou la non-prise.
C'est une sorte de prémonition de ChatGPT, quoi.
Non, parce que ChatGPT,
il est probabiliste beaucoup.
Non, mais surtout, il lit les questions.
Les questions, ouais. Ouais, c'est vrai.
Moi, j'avais fait un opéra parlé où Nicolas Horvat jouait les vexations et par-dessus, je racontais une partie d'échecs.
Je peux écouter ?
Oui. Voilà, super.
Tu ne m'as pas écrit depuis un mois et demi. Je te répondrai dans un mois et demi. Il faut voir ce qu'on peut faire. Tu fais bien de dire si c'est pour. Je ne fais pas toujours exprès ce que je peux. On voit bien ce qu'il faut faire quand on sait mal. C'est vrai, observant attentivement, faire toujours un peu plus. Tu survoles et tu remarques, et de la fumée, on finit par aimer. Regarde ce qui peut être rebondi en disant ça, qui plus est. Ceux qui voient bien ce qu'on veut dire n'étant pas. Ceux dont on aimerait qu'ils nous écoutent, c'est bien ça. Ils ont 600 ans, comment ils font cela si bien, tous ceux qui imaginent.
Bon, ça dure 4 heures.
Ouais. Beaucoup de choses qui sont importantes, mais cette histoire de se tendre, je repense soudain à l'art chevaleresque du tir à l'arc, où il s'agit de... En fait, c'est au moment où on ne pense plus la cible qu'on peut l'obtenir. Et c'est vrai que c'est peut-être une impasse aussi, enfin une faiblesse de ce modèle mathématique que vous tenez entre les mains, c'est de focaliser sur un être rêvé qui serait bien circonscrit, comme une cible qu'il faudrait atteindre, alors que précisément il s'agit de l'oublier.
Et parce qu'il bouge aussi, c'est ça ?
Aussi bien, mais je pense qu'il y a aussi cette façon de se dire, tiens, je vais m'entraîner à tendre un arc pour ne pas en jouer, d'accorder un instrument pour ne pas jouer à la fin, et que c'est peut-être ça la félicité.
Vous mettez aussi en jeu égoïsme et altruisme. D'abord au début, comme des coefficients qui vont faire évoluer la distance entre l'être réel et l'être rêvé. En quoi est-ce que l'égoïsme modifie cet écart ?
Alors, je reprends un peu la définition du Dédale, c'est la somme pondérée des distances entre les êtres et les mondes pondérés. Oui. Donc pondérée, ça veut dire que on va mettre un coefficient de valeur sur soit l'écart qui est entre les êtres constitutifs du sujet,
oui,
entre David réel et David rêvé, pour faire oui. vite, soit entre le monde de David tel qu'il espère et le monde tel qu'il est.
Oui.
Et au fond, le Dédale, qui est l'indice des tourments, il est d'autant plus grand que ces écarts pondérés, ils sont grands. Et au fond, vous vous rendez compte aussi que pour résoudre ce Dédale, si le monde il est vraiment trop violent par rapport à ce que vous en ressentez, eh bien vous aurez tout intérêt à baisser ce degré d'altruisme, de déconsidérer le monde et de vous concentrer sur l'écart qui est entre votre être réel et votre être rêvé.
Ah, c'est-à-dire que l'altruisme, c'est une considération du monde.
C'est l'attention et l'affection portées à autre que soi.
À savoir le monde.
Le monde. Le monde, c'est l'ensemble des êtres au dehors qui m'importent ou m'affectent. Alors il y a des personnes pour qui le monde c'est simplement la littérature,
oui.
d'autres pour qui c'est simplement la personne aimée, d'autres pour qui c'est la personne aimée plus les joueurs de football, plus la littérature, que sais-je. Mais c'est tout ce qui n'est pas soi.
Et l'égoïsme ?
C'est relatif simplement à soi.
Mais ça veut dire que tout ce qui augmente en moi d'égoïsme va amputer ma part d'altruisme proportionnellement ?
C'est relatif, c'est comme oui. si vous avez une part en fait. Là le modèle il est... On peut d'ailleurs le déployer, je l'ai linéarisé à 1, mais c'est comme si la part de votre cœur, entre vous et le reste du monde, la ligne de fracture pouvait évoluer. Vous avez 100% d'affect,
ouais.
vous les attribuez à vous ou au monde, et comment ?
Mais si je suis quelqu'un d'archi-pessimiste, donc ouais. Dans ce cas-là, ça va m'aider à avoir une représentation du monde hyper dévaluée. Et avoir peu d'espoir dans sa bonne évolution. Donc, ça programme que je ne suis pas altruiste ?
Non, parce que le pessimisme, il peut s'attribuer à vous aussi, donc c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire que...
Ah oui.
Mais parfois, on est tellement peu fier de soi qu'on a tout intérêt à augmenter notre part d'altruisme pour trouver dans l'écart entre le monde réel et le monde rêvé moins d'amertume qu'il y a entre notre être réel et notre être rêvé.
Ah oui, c'est une façon de compenser...
C'est ça. En fait, pour résoudre le Dédale, il y a deux options. Soit on travaille sur les distances entre les êtres et les mondes.
Soit on travaille sur les coefficients.
Soit on travaille sur les coefficients.
Donc on se donne dans une espèce de béatitude, peu importe si elle est réaliste, et hop, ça réduit...
Ça m'est arrivé de plus penser à moi parce que j'étais plutôt dans la désapprobation de ma vie et de me concentrer plutôt sur le monde de la littérature et où je trouvais, donc j'étais plutôt altruiste à cet endroit-là, où je trouvais un grand réconfort. Et d'autres moments où le monde m'était tellement insupportable que j'ai préféré concentrer mon attention sur ma propre personne.
Parce qu'il y a une constance de l'altruisme. Oui. Il y a même une équation qui l'explique.
L'inconstance, c'est son degré d'évolution dans le temps. Et précisément, de jouer sur cette inconstance, c'est parfois favorable. Quand le monde vous offre un déni, ou au contraire vous encourage, c'est là qu'il faut rejouer la répartition de son affect entre soi et le monde.
Mais à force de mettre tout ça en axiome, est-ce que vous-même, vous avez réussi à étendre votre programme émotionnel dans le temps, c'est-à-dire à avoir des stratégies à plus long terme ?
Ben oui, alors là, la première chose, c'est que je trouve qu'il a un peu révolu ce modèle dans le sens où, comme je disais, je l'avais linéarisé, c'est-à-dire que j'avais fait l'hypothèse que la taille du cœur, elle était stable, grosso modo.
Ah oui.
Et qu'on avait un quantum d'attention et d'affection qu'il fallait le répartir. Mais non, la vérité, c'est pas du tout ça.
C'est que ça bouge aussi.
Mais ça bouge infiniment. C'est-à-dire que plus on aime. Moins on aime et plus le cœur se réduit à peau de chagrin. Si bien que peut-être qu'on aura un zéro dédale, mais alors, quelle vie ?
C'est-à-dire ? C'est une vie triste, c'est ça que...
Ce fameux requiem, de rest in peace.
Ah oui. Voilà. Oui, donc vous pensez que la vie de forêt était vraiment toute petite ?
Non, je pensais simplement au titre Requiem, c'est tout. Que je cherche pas le repos de l'âme, en fait. Même si parfois, il nous permet de réaliser des choses, mais je cherche plutôt sa vitalité.
Votre chapitre 4 s'appelle « Modèle passionnel ». Et dedans, par exemple, on a un vestal romantique. C'est quoi un vestal romantique ?
Alors le vestal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'indice de la mobilité. Là où le dédale, c'est l'indice de l'intranquillité.
Oui.
Et le Vestal romantique, eh bien, c'est celui qui nous dit que si j'aime réellement une personne fondamentalement, alors son Vestal fait partie du mien. Sa mobilité fait partie de la mienne. Et donc, je dois l'inscrire dans ma propre mobilité, la sienne.
Et ça va amener un jeu d'imbrication des dédales des amants.
C'est ça.
Et alors là, on dirait quasiment du Ronald de Lingue à ce moment-là. C'est-à-dire que l'intrication des dédales passionnels majore la considération que chaque amant s'octroie à lui-même, ce qui donne des configurations du genre « Ton amour rehausse l'intérêt qu'enfin je m'accorde, réciproquement tu te chéris d'autant plus que je t'aime. »
Oui.
Ça, c'est quand ça se passe bien.
Ça se passe... Enfin, moi, je trouve que ça se passe plutôt pas très bien, en fait.
Plus je t'aime, moins tu me chéris. Voilà. Moins tu me chéris. Moins je te chéris, plus tu m'aimes. Là, ça commence à être problématique.
C'est ça. Et là, pour le coup, c'est purement mathématique. C'est-à-dire que si on fait l'hypothèse, effectivement, que les dédales enchevêtrés, c'est-à-dire, si je fais l'hypothèse que tu m'aimes, ce qui n'est pas évident, mais que tu m'aimes, c'est-à-dire que mon dédale fait partie du tien. Et moi, t'aimant, que ton dédale fait partie du mien, c'est-à-dire que pour résoudre mon intranquillité, je dois résoudre la tienne. L'intrication de ces deux dédales, si on déploie le modèle mathématique, il arrive à ce résultat que tout le monde connaît. Plus je te suis, plus tu me fuis, hein, pour faire vite.
Oui.
Mais c'est ça, en fait. Plus je t'aime, moins tu me chéris. C'est tragiquement mathématique.
C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler des corrélations de Vestales romantiques.
De dédales romantiques. Là,
de dédales romantiques. Parce que la corrélation des Vestales romantiques, ça se passe mieux.
C'est sur la mobilité.
Plus tu m'aimes, plus je m'anime.
C'est ça.
Et là, c'est bien.
Ça, c'est dans la mobilité, et je trouve que c'est la vitalité, oui, je préfère.
Ça, c'est l'amour. Oui, mais c'est assez adolescent.
C'est adolescent, mais il faut bien reconnaître que la mobilité va souvent, comme on l'a pressenti depuis tout à l'heure, avec le tourment.
Parce que ça met en équivalence le plus tu m'aimes, plus je m'anime, et le moins je t'aime, plus je t'anime, qui est déjà un peu plus pathologique.
Mmh.
Donc ça veut dire que ça met à égalité de valeur donc des situations enthousiasmantes pour les individus qui les vivent et des situations plus aliénantes. Donc là, on a un problème philosophique.
Alors, l'issue, j'ai développé le modèle à trois corps, en quelque sorte.
Ah oui, c'est l'amour multiple.
Oui, l'amour multiple, mais cela dit... Non, mais la vraie issue, comme je disais tout à l'heure, c'est celle d'abolir la fixité du quantum d'amour. Et de dire que non, c'est pas vrai, que le cœur, il est pas fixe. Et plus je t'aime, et donc peut-être que plus tu me chériras encore. C'est pas 100, ok, c'est 100%, mais c'est 100% d'une valeur qui va peut-être augmenter. C'est un peu comme à Venise, voilà. À Venise, les dédales intriqués. Lorsqu'il y a aqua alta dans le cœur d'un des deux amants, alors la géographie des dédales intriqués est complètement changée. Donc il faut parier sur aqua alta dans le cœur des amants.
Et aqua alta, ça par contre, ça arrive régulièrement.
Ça arrive,
c'est pas du miracle non plus.
Non, c'est de l'enthousiasme qui fait tout chavirer. Et c'est au sens positif des choses.
D'accord, donc quand même, vous faites évoluer vos modèles selon vos opportunités amoureuses nouvelles.
Nous, aussi bien, parce que je vends les formules aux des collectionneurs qui me proposent en fait de traduire en équation ce qu'ils ont comme pensée sur l'amour.
Et ça donne quoi par exemple?
Bah, la dernière fois, c'était un joaillier qui voulait une formule très simple, mais j'ai trouvé qu'au fond, d'écrire que l'amour combine les quatre opérations fondamentales, l'amour additionne, soustrait, multiplie et divise infiniment.
Et ça, vous l'avez représenté sous forme d'une équation mise en tableau dont il a pu faire l'acquisition.
Oui, c'est comme un vecteur. Alors, c'est pas un tableau, c'est chaque fois un négatif, il en fait ce qu'il veut. Certaines personnes se les tatouent, d'autres en font des wall paintings, d'autres...
D'accord.
C'est des projections infinies et des cristallisations concertées. Ça reste quand même qu'une petite écriture toute conceptuelle, mais après, sa cristallisation, j'aime bien qu'elle soit du fait même de celui qui la collectionne et qui la commande.
Parce que on a aussi des poèmes qui font un maximum de matière avec des intrigues assez minimales. Narcisse, Laure de Robert, c'est un sujet sur lequel on fait beaucoup d'écho alors que sa problématique se résume assez bien.
C'est rigolo comme expression.
Vous réglez le degré de Narcisse et le degré d'écho l'un par rapport à l'autre, justement.
En fait, je crois que le problème de l'époque, là, quand j'étais abandonné par la femme que j'aimais, c'est que j'avais manifestement trop projeté. Je vois marquer la probabilité qu'un Pygmalion statique dans ses fantasmes désole son amante est proche de 1. Voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. À mon avis, j'ai fait tout le modèle de Narcisse et d'écho, de projection et de reflet en fait dans l'autre de ce à quoi on aspire, pour arriver à ce résultat qui était fatalement délétère, mais qu'à force de projeter sur l'autre, eh bien forcément on le perd.
À trop vouloir sculpter autrui, on risque de le perdre. Donc là, oui, c'est un axiome qui est en fait un témoignage.
C'est ça. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que c'est assez universellement partagé.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de formuler la réciproque galatéenne. Sans l'aide des mathématiques, vous n'y aurez peut-être pas pensé. Et ça vous permet donc de dire à trop se laisser sculpter par autrui. On risque de se perdre. Ce qui est une évidence, mais qui est beaucoup plus intéressante quand elle est bien dite comme ça, oui.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette littérature sur la perversion narcissique et... Oui. Et finalement, je vois que c'est écrit...
Que assez... ça tient bien en deux pages.
Oui.
Ouais. Aussi, parce que vous la synthétisez et ce faisant, vous la rendez encore plus maniable. C'est quoi l'équation du Cortot, l'indice Cortot qui doit se penser relativement à la variable d'Ariane?
Parce que la variable d'Ariane, c'est celle qui instruit l'intranquillité non seulement du dédale, c'est-à-dire l'écart entre qui on est, qui on voudrait être, et le monde tel qu'il est, le monde tel que l'on souhaite, mais aussi, surtout, par ce sentiment d'être aimé par les personnes que l'on aime.
Ah oui, alors ça, vous dites que se sentir aimé de ceux qu'on aime divise le dédale.
Oui, c'est-à-dire divise l'intranquillité. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort que de se sentir aimé par les personnes que l'on aime. Rien.
Mais quand vous dites qu'elle la divise, l'intranquillité, ça veut dire qu'elle la diminue nécessairement
Voilà, quand on fait l'hypothèse que c'est supérieur à 1, effectivement, et que diviser l'intranquillité, c'est plutôt accroître le bonheur. C'est une façon différente de le dire.
Ah oui.
C'est augmenter la joie dans le cœur que de diviser l'intranquillité. Et cela s'opère de façon radicale par le sentiment d'être aimé par les personnes que l'on aime, que j'appelle ici variable d'Ariane. Tout simplement parce qu'Ariane, elle connaît le tourment absolu que d'être abandonnée sur une plage par la personne à qui elle a tout donné. Abandonnée comme un sac, vous rappelez cette histoire, c'est comme odieux ce qu'il fait. Taisez là. Et je raconte un peu cette histoire assez souvent, je ne sais même pas si je le fais dans le livre, de ce moment-là où... Ou même si ça allait pas très bien dans ma vie, je reçois la lettre de la personne que j'aimais et qui témoignait de son amour. Et donc là, pour le coup, ma variable d'Ariane était très grande et mon intranquillité avait fui, avait complètement fondu. J'étais aimé par ma chérie jusqu'au moment où j'ai retourné la lettre et j'ai vu qu'elle m'était pas adressée. Et là, vous imaginez à quel point, bing, la variable d'Ariane fond, le dénominateur se réduit à peau de chagrin.
Éclate.
Et du coup, l'intranquillité explose. Donc c'est tout simple, mais c'est une façon d'écrire cliniquement des émotions et des doutes, avec une langue, et là j'y tiens, qui est universelle, parce que les mathématiques sont universelles.
Comment est-ce qu'on raconte Orphée et Eurydice en mathématiques existentielles, puisque c'est quand même un couple qui a été fondateur de l'opéra? On n'aurait pas fait d'opéra peut-être sans Orphée, qui est peut-être d'ailleurs un remake de Pénélope et Ulysse.
Ce moment du dernier regard, vous voulez dire de cet interdit-là? Je ne sais pas, c'est terrible parce que hier, par exemple, pour la première fois, j'ai demandé à ChatGPT de faire une équation de mathématiques existentielles.
Il le fait bien?
C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, donc peut-être que je peux lui demander de m'accompagner. Je lui ai demandé l'équation du panache en fait.
Parce que vous aviez envie de panache?
J'avais envie ma fille étudie Cyrano et donc je voulais lui dire comment ce
vous
dernier
mot... Vous lui demander quelque chose, je vous...
Comment l'équation du dernier regard de Orphée à la façon des mathématiques existentielles? Alors, en fait, l'expression mathématique existentielle, elle existe chez Kundera. Deux fois, elle apparaît. Non, mais pour dire qu'elle n'existe pas, c'est un peu mon clin d'œil. En vrai, quand j'ai écrit ce livre, j'ai cherché un titre, je me suis dit c'est les mathématiques existentielles, et sur Google, tout de suite, j'ai vu que ça existait dans l'œuvre de Kundera, je me suis dit c'est ballot. Mais en fait, en regardant, il disait tout simplement qu'elle n'existait pas. Donc c'était mon clin d'œil de dire si, elle peut exister. Et voilà ce qu'il nous dit. Bon, non, il dit pas grand-chose. Laurent de Robert traduirait probablement ce geste en une équation existentielle mêlant amour, perte, temps et interdiction.
Ah là, il n'est pas terrible sur les facteurs. Il n'est pas très fini.
Ça y est, il y va. Non, il fait de la soupe, encore, avec des symboles, mais qui sont pas bien articulés. Mais je sens que ça va vite venir. Hein,
qu'il fera bientôt de la bonne mathématique existentielle.
C'était mais quoi, c'est assez quoi, juste que de dire à l'instant du regard, l'amour devient souvenir. Le visible a tué l'invisible, le réel a détruit l'espérance.
Ah, il lacanise un peu les mathématiques existentielles, non ? Parce que vous substantifiez moins le réel que Lacan, par exemple, non ?
Oui. Oui, parce que j'ai quand même conscience que c'est le produit de notre intellect. Je veux dire que c'est une croyance, quand même, le réel, pour moi.
Enfin, c'est pour ça que c'est inconstant ?
Par exemple. Et c'est pour ça qu'on peut le rejouer, le réel de notre passé.
Alors, je voudrais partager avec nos auditeurs la façon dont vous avez formulé votre requête à ChatGPT, mais il l'a effacée.
C'est l'équatope du dernier regard de Orkney, à la façon de Laurent Robert. Parce que j'écris pas très bien, j'ai des lunettes qui sont pas assez puissantes.
D'accord. L'équatope ?
L'équation, c'était.
Ah, d'accord.
Mais j'ai mal écrit.
Vous l'avez pas super aidé quand même. Rimane il mio male, sor crive, che il ride, rianica il mio male, se si coma madure. E ridisse, Rimo che il supplisso Rimo Alors il faut maintenant faire la différence entre les nunc-dédales, les futuro-dédales, les archéo-dédales, parce que comme il y a en effet évolution des dédales, on peut les répartir dans le temps et penser à un méta-dédale, voire des méta-dédales.
Mais c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de travailler contre soi aujourd'hui, en quelque sorte,
ah oui.
Contre son bonheur aujourd'hui, pour favoriser le bonheur de demain ou pour arranger les tourments du passé.
C'est le jeu du labyrinthe.
C'est le jeu du labyrinthe, c'est la cigale et la fourmi. Il y a des personnes qui priorisent l'avenir, d'autres qui priorisent le présent. Mmh. Et au fond, le dédale qu'il s'agit de minimiser fondamentalement, sinon on ne comprendrait pas nos actions, c'est l'arc, le méta-dédale, celui qui englobe le passé, le présent et l'avenir.
On a donc illustré au cours de cette émission un certain nombre des notions des mathématiques existentielles par la musique. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres applications musicologiques des mathématiques existentielles que simplement trouver des figures musicales de notions de mathématiques existentielles ?
Je pense que ça va presque dans le sens inverse. C'est comment la musique porte vers des états d'âme qui peuvent se traduire.
Ah oui.
Au fond, j'écris en écoutant la musique aussi. Et puisque ces mathématiques sont un essai de traduction des états d'âme, alors, et qu'elles sont induites souvent par ce que l'on entend, je sais que j'écris beaucoup dans le train, parce que c'est le seul endroit où j'ai un peu de tranquillité,
ouais.
Et que j'écoute la musique dans le train, et que les équations fusent à ce moment-là.
Alors, on va faire l'exercice inverse, parce que jusque-là, je suis allé des mathématiques existentielles vers la musique, peut-être qu'on va donc tenter l'inverse, je vous fais écouter une musique. Et puis, on va voir ce que vous pourriez peut-être en tirer mathématico-existentiellement.
c'est-à-dire que je suis un peu obsédé en ce moment par un thème, mais c'est celui de l'Ecclésiaste. Et j'entends dans cette cantine quelque chose d'un peu ludique, d'une valse qui est un peu tourbillonnante et qui fait que trois petits tours et puis s'en vont, en quelque sorte, que c'est ça la vie. Et j'étais très séduit par un livre de Pierre Zawi qui est sorti récemment sur l'apologie des bulles de savon.
Oui.
Un livre extraordinaire. Les premiers chapitres sont bouleversants de limpidité et d'analyse. Et qui m'a conduit, en fait, moi, à essayer de traduire mathématiquement l'Ecclésiaste. Ce fait que Havel, Havalim, que tout est... C'est pas que tout est vain, c'est que tout est vent. Voilà. C'est ça que j'essaie de mettre. Parce qu'il nous précise bien que c'est pareil, c'est une erreur de traduction, en tout cas un manque d'ambiguïté. Parce qu'il faut toujours respecter l'ambiguïté des termes, sinon on coupe le sens, une partie du sens. Que lorsque Coëlette dit Havel, Havalim, Hakol, Havel, il ne dit pas forcément vanité de vanité, tout est vanité, ça c'est une traduction qui nous vient de la Vulgate. Mais Havel, c'est d'abord le sens de l'évanescence. C'est que tout est buée, tout est bulle, tout est fraude, tout est vapeur. Havel, c'est le nom d'Havel, celui qui a vécu que l'espace d'une haleine, en quelque sorte. Donc de dire que tout n'est pas vain, mais tout est vent, et poursuite du vent, j'essaie de les traduire en équation pour célébrer l'évanescence mathématiquement. Et cette musique me ramène là. Parce que j'avais d'abord fait l'équation du cantique des cantiques, parce que j'étais un peu versé dans les histoires d'amour, de perte et de retrouvailles, et qu'on raconte que c'est Salomon qui a écrit quand il était jeune le cantique des cantiques, une histoire d'amour passionné entre deux amants qui se frôlent à peine, dans lequel Dieu n'existe pas, ce qui est génial dans la Bible, puisqu'il n'est pas mentionné, et que Salomon, une fois qu'il a acquis la sagesse, il revient sur tous ses écrits et il écrit donc le Coëlette, qui est l'Ecclésiaste, dans lequel il nous raconte que lui qui a tout fait, tout vu, eh bien, il est rendu à cette analyse que tout n'est que vapeur et buée.
Ce qui voudrait dire qu'au lieu de s'obséder de la minimisation du dédale, on devrait peut-être... simplement insuffler les courants d'air que produisent les mouvements des différents états d'être et des différents états de monde.
Et ça donne, pour le coup, une quiétude et une joie en même temps, qui est assez dingue. De ce savoir évanescent, poussière qui y revient, mais juste virevoltante dans l'oxygène.
Merci Laurent de Robert.
Merci à vous David.
On se quitte avec la suite et la fin de ce petit train de plaisir de Rossini.